Bonjour Monseigneur Mika.
Bonjour.
Ce 23 juin 2022, vous avez signé avec le procureur de la République, M. Pierre Aurignac, un protocole commun afin de lutter ensemble contre les abus de pouvoir et les abus sexuels qui sont commis au sein de l'Église. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce protocole? D'abord, pourquoi était-il nécessaire de signer un protocole commun entre vous, évêque du diocèse de Tarbes et Lourdes, et monsieur le procureur de la République des Hautes-Pyrénées?
Eh bien, c'est une démarche qui fait suite à la remise du rapport de la SIAZ au mois d'octobre 2021, dans laquelle démarche les diocèses de France s'engagent à faciliter, on va dire, le travail de la justice. Et dans cette facilitation du travail de la justice, souhaite, exprime le désir d'être aidé pour, en effet, rendre nos diocèses, rendre les communautés d'Église, faire que l'Église, comme selon l'expression désormais consacrée, redevienne une maison sûre. Et donc c'est un protocole qui a pour mission d'établir un lien officiel de coopération entre le procureur de la République et l'évêque du même territoire, donc du diocèse, pour que les informations circulent dans un sens, dans l'autre, pour que chacun sache bien, comprenne bien les procédures propres à chacune de nos institutions, que le procureur soit alerté sur le droit de l'Église d'un côté, que l'évêque soit alerté sur le droit de l'État de l'autre côté, que chacun comprenne bien l'autre et que nous puissions nous entraider dans cette lutte commune contre les abus dans l'Église et que l'Église redevienne un lieu en qui tout le monde peut faire confiance. Voilà.
Alors, en d'autres termes, concrètement, ça veut dire que dès que vous-même, en tant qu'évêque du diocèse, vous connaissez un cas, vous le signalez au procureur et vice-versa, il y a un travail de collaboration et de confiance mutuelle pour unir vos services à la fois de droit ecclésial et de droit civique pour lutter contre les abus.
Alors, pour une part, enfin, de certains côtés, il n'y a rien de nouveau là-dedans. Hein. C'est-à-dire qu'il y a déjà la loi qui oblige les évêques, qui oblige toute personne qui est informée d'abus, etc., à avoir certaines attitudes, sous peine, au risque d'encourir des peines déjà prévues par la loi. Donc, bon, très bien. Par ailleurs, la Conférence des évêques de France a publié déjà depuis plusieurs années, régulièrement mis à jour, tout un document, lutter contre la pédophilie dans l'Église, dans lequel le droit de l'Église, le droit de l'État sont régulièrement rappelés, et ce document est diffusé régulièrement dans les maisons de formation, dans les séminaires, auprès de tous les acteurs, la pastorale des jeunes, etc., etc. Donc déjà, ça existe dans l'Église. La nouveauté de ces protocoles, c'est que dans un document simplifié, l'Église s'engage auprès du procureur à respecter les dispositions qu'elle connaît, qu'elle a reformulées, enfin, etc. Et de son côté, le procureur s'engage aussi à aider l'Église à prendre les dispositions qu'il faut, à aider l'évêque, à prendre les dispositions, éventuellement à lui donner telle ou telle information qui remonte d'une enquête, ou etc., pour que l'évêque prenne les dispositions qu'il doit prendre, parce que l'évêque, il n'a pas de gendarmerie ou de police pour apprécier la véracité d'une dénonciation ou d'un signalement, etc. Et donc le procureur s'engage quelque part à aider l'évêque, à dire, bah, écoutez, ça semble assez sérieux cette affaire, le signalement qui a été fait, et donc, Monseigneur, sans doute qu'il y aura des démarches à faire, etc. Voilà. Donc, à aider l'évêque à prendre ses responsabilités en mettant à sa disposition des informations, pas toutes les informations, ça, une enquête est une enquête, et puis voilà, mais de lui communiquer suffisamment d'éléments pour qu'il puisse prendre ses propres responsabilités sans avoir lui-même les moyens de faire une enquête en bonne et due forme.
Alors, vous évoquez la formation, Monseigneur Mika. Peut-être que c'est l'occasion, lors de cet entretien, de rappeler que dans notre diocèse de Tarbes et Lourdes, comme dans de nombreux diocèses de France maintenant, il est important que cette formation de tous les acteurs qui sont sur le terrain, alors auprès des jeunes, mais aussi auprès des personnes vulnérables, on pense à la pastorale de la santé notamment, ces formations, elles existent. Il y a une prévention, une formation qui est prévue, qui est organisée, qui est déjà mise en place. C'est aussi ce travail de prévention est fait aussi à travers la charte qui est en vigueur dans notre diocèse depuis le 8 septembre 2019, une charte de protection des mineurs et des personnes vulnérables. Alors évidemment, il y a un travail en amont à faire. On l'a beaucoup dit, mais il faut continuer. Et peut-être que cet entretien avec vous aujourd'hui est l'occasion de rappeler que la vigilance est toujours de mise.
Alors j'ai envie d'élargir le champ. En effet, il faut que toutes les personnes dans l'Église qui sont en situation de responsabilité, d'accompagnement, d'animation, de mineurs d'une part et de personnes adultes estimées vulnérables d'autre part, soient suffisamment alertées, informées et formées. Bon. Alors ça concerne évidemment les prêtres, mais pas seulement les prêtres. Ça concerne toute personne en responsabilité d'animation et d'accompagnement. Donc l'engagement que l'Église prend, c'est de donner à toutes les personnes qui, au nom de l'Église, accompagne des mineurs ou des adultes vulnérables, d'être formés, informés, et ça régulièrement. C'est-à-dire il y a une formation initiale, au moment où la charte est communiquée, au moment où un animateur est recruté, où une lettre de mission est écrite, la charte est communiquée à ce moment-là, mais il faut que régulièrement, on se donne les moyens de vérifier que les éléments essentiels sont bien possédés, mis en œuvre, et éventuellement repréciser les choses, etc., etc. Que ce soit à destination des prêtres et des futurs prêtres, ou que ce soit à destination des laïcs qui sont eux aussi en responsabilité auprès de jeunes et de personnes vulnérables. Alors, concrètement, dans les séminaires pour parler des prêtres, ça fait déjà près de 20 ans que la formation des prêtres a intégré, depuis les premiers scandales pratiquement, et depuis que la conférence des évêques a rédigé cette toute première plaquette « Lutter contre la pédophilie », au début on était axé sur la pédophilie, depuis on a élargi le champ aux personnes adultes vulnérables, parce que c'est très important d'avoir cette vision d'ensemble, bien évidemment. Et donc, dans les séminaires, depuis à peu près une vingtaine d'années, il y a un gros, gros travail dans la formation humaine des séminaristes qui forme, informe, éduque les futurs prêtres, les sensibilise à cette dimension-là. Bon. Ce qui est nouveau, c'est qu'on est en train d'élargir le champ aux autres acteurs de la pastorale des jeunes, des personnes dites vulnérables. En effet, vous avez mentionné la pastorale de la santé. Bon. Alors, à Lourdes, par exemple, au sanctuaire de Lourdes, tous les étés, les séminaristes viennent pour assurer de l'accueil, de l'animation, de l'accompagnement. Bon. Eh bien, ils sont accueillis par une journée de formation qui leur donne des éléments suffisants, minimum, pour être de bons accompagnateurs accueillants du sanctuaire de Lourdes. Mais le service diocésain, cellule d'écoute, et qui se préoccupe de la formation de tous les acteurs sur ces questions, intervient aussi dans cette journée de formation pour les sensibiliser à la manière d'accueillir convenablement non seulement des mineurs, mais aussi des personnes vulnérables, et Dieu sait qu'il y en a à Lourdes. Voilà. Donc, par exemple, ça c'est à destination des séminaristes qui sont en service à Lourdes. C'est déjà là, c'est déjà en place ça. Voilà. Dans le diocèse, nous allons développer, à partir de la rentrée, une formation à destination des catéchistes, à destination des animateurs en pastoral de jeunes, dans le même esprit. Voilà, et on est en train de rédiger une nouvelle charte diocésaine qui va sans doute comporter, enfin qui sans aucun doute va comporter des éléments de précaution et renforcés suite à la remise du rapport de la SIAZ en octobre dernier.
Donc pour bien comprendre, la charte qui est en vigueur dans le diocèse de Tarbes-et-Lourdes depuis le 8 septembre 2019 est toujours en vigueur aujourd'hui, et c'est très important de le rappeler à l'aube des nombreux camps d'été qui sont organisés, mais une nouvelle version de la charte renforcée est en train d'être travaillée, et elle sera présentée puis mise en place dans le diocèse au cours de l'année pastorale à venir, c'est bien cela?
C'est exactement ça. Cette nouvelle charte reprend la trame tout à fait bien faite de la charte actuelle, mais elle tiendra compte des éléments nouveaux suite aux préconisations du rapport de la SIAZ au mois d'octobre dernier, suite à la signature des protocoles avec les procureurs de la République. Donc il y aura des éléments nouveaux dans la nouvelle charte qui renforce les éléments déjà là, mais qui en précise des modalités, qui sans doute comportera quelques exigences supplémentaires pour tout animateur, en pastoral de jeunes par exemple, ou de personnes vulnérables. Donc les catéchistes de paroisse auront à présenter des garanties de formation, d'information, etc. etc. Donc ça va être quelque chose d'un peu nouveau hein, dans notre façon de faire et de concevoir l'envoi en mission auprès de jeunes et de personnes vulnérables. Mais on est obligé d'en passer par là pour regagner la confiance des parents et de ceux qui confient les jeunes et des personnes vulnérables à l'attention pastorale de l'Église.
Ce qu'on entend aussi à travers vos propos, Monseigneur Mika, c'est que ce n'est pas l'évêque seul qui porte et qui met en place cette lutte contre les abus au sein de l'Église dans le diocèse. C'est que vous y travaillez activement, mais à la fois avec la cellule d'écoute, à la fois avec le père Giuseppe Sirigedi, qui est le délégué épiscopal à la protection des mineurs et des personnes vulnérables, mais également, on entend que vous avez besoin vraiment de l'aide de tous les acteurs qui sont sur le terrain et de la confiance renouvelée des parents.
Ben, la confiance renouvelée des parents, c'est l'objectif visé, c'est-à-dire cette confiance a été mise à mal par la révélation des abus, par les scandales, etc., etc. Et il est clair qu'il faut regagner cette confiance parce que l'Église porte un trésor, certes dans des vases d'argile, mais trésor quand même. Et l'Église, elle est faite pour évangéliser, disait le pape Paul VI. Donc ce trésor, pour le communiquer, ben, il faut qu'on soit dans une relation vraiment de confiance. Et donc pour pouvoir continuer de transmettre ce trésor, eh bien il faut regagner la confiance. Et regagner la confiance passe par le fait de changer nous-mêmes de façon de faire, de comprendre qu'en effet, il y a des choses qu'il ne faut pas faire, il y a des attitudes qu'il ne faut pas avoir. Donc il faut qu'on soit suffisamment alerté sur toutes ces choses-là pour que ça ne se reproduise pas vraiment. Et quand malheureusement, si ça se produit, malheureusement, savoir comment réagir immédiatement, dans le respect du droit, dans le respect des personnes, pour que la confiance puisse être conservée et maintenue.
Voilà, et c'est l'objectif précisément de ce protocole commun que vous avez signé donc ce 23 juin 2022 avec le procureur de la République des Hautes-Pyrénées, Monsieur Pierre Aurignac. Et puis on rappelle pour terminer cet entretien que la cellule d'écoute des victimes est toujours bien sûr mobilisée dans notre diocèse. Pour la contacter, il y a deux possibilités, soit par mail, parole de victime, victime au pluriel, tout attaché en minuscule, parole de victime @catholique65.fr ou bien le portable 07 89 78 59 35, 07 89 78 59 35. Voilà les coordonnées de la cellule d'écoute des victimes d'abus au sein de l'Église dans le diocèse de Tarbes-et-Lourdes. Merci beaucoup, Monseigneur Mika.
Eh bien, merci beaucoup de relayer ce message et cette information extrêmement importante.